Et voici, mesdames, messieurs, celui avec qui j'ai pris le café ce matin. C'est-à-dire, lui, il ne savait pas, mais j'étais à la maison et j'ai été ravi de son commentaire. Il a été formidable, mais il y a des gens qui l'ont surnommé le grincheux de la Saint-Valentin. Pierre-Yves McSween, rebonjour.
Salut, Paul.
Ta chronique de ce matin a fait tellement jaser. Et si vous ne l'avez pas entendue, mesdames, messieurs, vous pouvez la réécouter sur notre site avec grand plaisir ou encore grand déplaisir.
Parce que... c'est un compliment, Paul.
Ben non, mais c'est un compliment certain. Il s'agissait de parler de l'amour et de l'argent aussi. Et souvent, quand le manque d'amour éloigne les parties et éloigne l'argent aussi.
Oui, mais que l'amour retient les parties parce qu'il y a tellement un grand coût à se séparer puisque la société est bâtie comme une association économique. Quand vous êtes en couple avec quelqu'un, le gouvernement se dit « Vous formez une association économique, voici vos droits, voici vos obligations, voici vos actifs, voici le coût de vous séparer. » Et c'est très pénalisant. Donc, l'argent retient le couple ensemble, beaucoup plus que l'amour.
Mais d'ailleurs, ceux qui croient encore au mariage et qui vont organiser un mariage dépensent déjà énormément d'argent avant même de savoir si le couple va tenir.
Oui, Paul.
Ça coûte cher, un mariage.
Oui, surtout si tu te divorces 3 ans après, c'est quand même une
perte. Je te dis.
Tu peux pas l'amortir sur 50 ans comme une maison. Tout à fait, Paul.
C'est pas pour te prendre une marge de crédit de 100 000, puis aller, on se marie à l'église, peu importe.
Mais aussi la stratégie de se faire subventionner son mariage, Paul, c'est-à-dire de demander aux invités de payer un prix pour qu'ils viennent et t'assurer d'arriver avec un certain montant à la fin. Mais ça, c'est quand même un drôle de mariage parce que les invités au mariage paient beaucoup le mariage. La robe, le veston, faire garder les enfants, les amener, les habiller. Après ça, on paie le cocktail, on paie un billet, on donne un cadeau. Donc, il y a beaucoup de gens qui financent le mariage de leurs amis.
Oui, dans un certain sens, c'est vrai, on peut le regarder comme ça. Question très pratique, il y a des gens qui veulent savoir, de ta part, Pierre-Yves, si c'est un premier souper ce soir, première rencontre, est-ce que tu te précipites vers la facture? Est-ce que c'est encore, ou si automatiquement tu dis moitié-moitié?
Ben moi, première rencontre. Conjointe, mais je te dirais, dans un point de vue économique, si une personne vous invite par courtoisie, elle vous dit « je t'invite au restaurant », normalement, elle pourrait payer par courtoisie. Il y a aussi la construction sociale, de dire « écoutez, on construit socialement l'individu en se disant que l'homme paye une première dette ». Bon, ça, c'est dans nos conventions qu'on s'est fait croire. Mais dans un système totalement égalitaire, Paul, où l'homme et la femme sont égaux, quand tu y penses, si tu payes la première rencontre avec l'autre personne,
oui,
ça veut dire que tu es en train de dire à l'autre personne « tu vaux tellement plus que moi dans la vie que je dois te payer pour accepter de souper avec moi.
Mm-hmm.
Et ça, d'un point de vue économique, ça doute un peu, parce qu'on est en train de dire, dans le fond, la personne qui paye se dit « je vaux moins que toi, donc je dois te dédommager pour m'accompagner ce soir. Tu n'as pas eu autant de plaisir que moi. »
Ah, là, ils veulent que je raconte une anecdote là-dessus. Je ne sais pas si tu as le goût de l'entendre.
Oui, tout à fait.
J'étais étudiant à Poly dans le temps. Oui. Et évidemment, quand tu es étudiant, tu le sais, on n'a pas beaucoup d'argent. Alors, j'ai une première date. OK?
Un soir. Et à la police, c'est pas facile d'avoir une dette parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles à l'époque, là.
Il n'y avait pas de filles quand j'étais là. Non, non, mais c'est vrai, il n'y en avait presque pas d'étudiantes. Maintenant, je pense qu'il y en a plus que les gars. Mais c'est... non, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, souvent, on se matchait par ordinateur avec des infirmières en nursing,
oui,
qui faisaient leur bac en nursing. Alors, je m'en vais souper, ça se passe pas bien, mais vraiment pas bien. Je suis pas sympathique, elle n'est pas sympathique. Alors, arrive le temps de payer, et puis je me précipite en disant, bon, donnez-moi ça, c'est moi qui ramasse la facture. Et elle me regarde de façon très bête en disant, c'est pas parce que je suis une femme que je suis pas capable de payer. Alors ça, c'était le clou sur le cercueil. J'ai pris la facture, je l'ai laissée sur la table, puis j'ai dit, bye-bye.
Ah oui, c'est bon.
Chiant,
c'est
chiant, hein? Non, mais c'est chiant.
Ben, en même temps, si tu n'avais pas maximisé ta rencontre, dans le fond, tu t'es dit, voilà, j'ai perdu mon temps, donc
ben non, mais
elle prête à payer.
Elle me dit sur un ton bête, je suis pas parce que je suis une femme, je suis pas capable de payer. Ben, je dis, prends là de bord la facture, bye-bye.
Mais il y a aussi une question de courtoisie là-dedans. Et c'est là que les gens embarquent et disent, garde, quand tu veux offrir quelque chose à quelqu'un, c'est comme un cadeau. Donc, par courtoisie, je paye. Bon, mais les gens qui datent beaucoup, là, moi, je suis de la vieille génération, j'ai 38 ans, là, mais, tu sais, les jeunes qui datent beaucoup, là, tu sais, c'est toujours le même parti qui date puis qui date 20, 30 fois dans l'année. Son budget de rencontre est élevé s'il paye tout le temps la facture.
Ben oui.
Surtout quand tu vas dans des bons restaurants de Montréal où ça peut coûter là 200-300 juste pour cligner des yeux et prendre 2 coupes de vin.
Mais l'association dans la vie non mariée, c'est-à-dire non contractuelle comme telle, peut quand même être fort intéressante. Tu bâtis quelque chose, tu bâtis un avenir. Oui. Ça peut être une maison, ça peut être des possessions. Et surtout, tu bâtis une famille et un patrimoine.
Mais au Québec, le conjoint de fait n'est pas protégé. Alors, il faut se protéger dans nos actions. Par exemple, quand vous achetez une maison, il faut, faut comprendre que le pourcentage de possession va gérer votre pourcentage à la sortie. Il faut comprendre qu'on n'a pas droit à un patrimoine familial comme conjoint de fait. Donc, il faut se protéger. On peut faire un contrat de vie commune si on veut s'engager financièrement. Mais comprenons que d'un point de vue purement économique, et là, je sais que je vais recevoir des tomates, Paul, attends une minute, ça sent le ketchup. Je t'explique, la personne qui est la plus aisée entre les deux, que ce soit un homme ou une femme, techniquement, se marier, c'est prendre un risque de perte financière. Mais la personne qui est la moins nantie des deux dans les revenus, elle, se marier, c'est comme faire un gain. Mais je vais te conter une histoire, une anecdote. Il y a un gars que je connais par personne interposée, c'est un avocat. Lui, il veut pas se marier avec sa conjointe. Tu comprends? Parce qu'il se dit, moi, je suis avocat, ma conjointe est aux études, blablabla. Finalement, elle change de champ et elle devient médecin spécialiste.
Ooh.
Là, tu comprends que son fusil avait changé d'épaule parce qu'il se disait, oh, voici une valeur actuelle nette intéressante. Donc là, il était plus enclin à avoir un contrat, tu comprends?
Mais ma mère disait tout le temps, fais attention, parce que je disais souvent à la blague, oh, moi, je vais marier une fille très riche.
Ben oui.
Puis ma mère disait, fais attention. Et c'est elle qui va te dire, tu marches sur mes tapis, tu t'assois dans mes fauteuils, tu vis dans ma maison. Puis elle me disait ça sans arrêt.
Oui, ça c'est quand la relation financière ne doit pas être une relation de contrôle. T'sais.
Non, non, non,
tu peux pas
dire
à quelqu'un, moi je paye, donc tu fais ce que je veux. Ça devient quasiment un pouvoir économique décadent,
mais,
si on veut.
Mais ce que tu as démontré ce matin, en quelques minutes, et encore une fois, j'invite nos auditeurs et auditrices à aller l'écouter si vous ne l'avez pas entendu, puis arrive ce matin, pour pas qu'il passe tout seulement pour le grincheux de la Saint-Valentin, c'est que ce que tu dis, c'est que la désunion, l'augmentation du cercle de fréquentation peut coûter très cher aux conjoints.
Oui,
au conjoint pluriel.
Oui, mais si on quitte quelqu'un et on repart à zéro, la société n'est pas faite, surtout quand on a des enfants, fiscalement, pour que ce soit juste. Donc, dès que vous allez quitter votre relation et en repartir une nouvelle ou être seul, on va vous générer du trouble fiscal, du trouble légal, et ça fait en sorte que vous n'avez plus les mêmes économies d'échelle, les mêmes avantages fiscaux, mais surtout les calculs fiscaux de pension alimentaire sont parfois bizarres. Comme par exemple, quand on fait un calcul pour calculer la pension alimentaire envers les enfants, on ne prend pas le salaire net de la personne, on prend le salaire brut. Mais là, Paul, tu sais, le salaire brut, le salaire net, quand on a un impôt progressif, c'est pas juste, parce que la personne qui gagne 100 000, elle gagne pas plus, deux fois plus d'argent que la personne qui gagne 50 000.
Non, non, non.
Elle gagne un point quelque chose parce que l'impôt est plus élevé.
Voilà.
Donc, alors, dans ce calcul-là, ça génère des problèmes. Et l'autre affaire, c'est que tous les tarifs, toutes les allocations, il y en a beaucoup qui sont générés en fonction du revenu net familial. Donc, si votre ancienne conjointe se rematche avec un gars plus riche que vous, et que c'est elle qui a le contrat de garderie, et c'est elle qui paye les frais de garde, elle, sa contribution supplémentaire pour frais de garde subventionnés va augmenter. Donc, vous, de votre côté, vous allez vous retrouver à payer des frais de garde plus chers parce que le nouveau conjoint de votre ex-conjoint, qui, elle, ne fait plus partie de votre vie, lui ne contribue pas à vos enfants, mais vous, vous devez payer parce qu'il existe, lui, et est en union avec votre ex. C'est complètement décadent. Paul, c'est comme un labyrinthe. C'est la maison des fous, Paul.
Conclusion, Pierre-Yves McSween, la fidélité... C'est la richesse.
En fait, l'actif financier commun, c'est la richesse.
Merci beaucoup, Pierre-Yves, d'avoir fait du temps supplémentaire qui te sera payé. Au revoir.
Salut.